Nous allons prier. Oui, notre Père, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour l'Église. Merci pour les frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui agit dans les vies. Et Seigneur, je te prie dans ta grâce de conduire pour les enfants, pour qu'ils entendent ta parole ce matin. Je te prie aussi pour moi, pour que je puisse transmettre fidèlement ta parole et que ton nom seul soit glorifié. T'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand je parle de l'Église, c'est toujours un miracle. C'est vrai que c'est un miracle, l'Église. Je ne sais pas si on se rend compte, mais Dieu met des hommes et des femmes ensemble, de cultures différentes, de classes sociales différentes. Ça me rappelle toujours ce film, Le livre qui ne brûle pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui relate la persécution à Madagascar. Et au début de l'évangile, en Madagascar, il y a eu une grande persécution. Et à un moment donné dans le film, on voit une scène très très parlante. Une servante à côté de sa maîtresse. Et la servante, quand il y a la scène, fait signe à sa maîtresse de prendre avant elle. Et la maîtresse lui dit, non, vas-y toi. Et voilà l'Église. Nous sommes différents, mais unis par Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés à un grand prix. C'est un miracle aussi pour qu'une Église continue. Après 50 ans, c'est une grâce. Ce n'est pas la grâce des hommes, c'est grâce à Dieu. Et c'est pour ça que je pense à ce psaume 115 qui dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. » Ou alors le psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et on pourrait faire ce parallèle, si ce n'est l'Éternel qui bâtit l'Église ou qui la garde. Ceux qui travaillent, travaillent en vain. Alors je fais juste un petit bref historique, Margaret l'a fait. Je voulais dire que c'était aussi, l'Église était les ossements d'une prière. Et elle n'est pas là parmi nous ce matin, c'est Madame Ortega qui est devenue Madame Holbeck, qui s'est convertie en Algérie, et qui était assez loin d'une église, et bien sûr, selon l'histoire vous connaissez, elle était obligée de venir en France, quitter l'Algérie. Et sa prière, c'était « Seigneur, permets que là où je serai, il y ait une église. » Et Mme Ortega est arrivée à Ris-Orangis, et elle allait au culte à Savigny. Et l'église à Savigny, c'était chez les Fariances, et c'était la réunion se trouvait dans le garage de la maison des Fariances. Et un jour, donc, le couple, la famille Stoffacher est arrivé aussi, ils apprenaient le français, et ils allaient à l'église aussi de Savigny. Mais un jour, les Stoffacher sont venus habiter à la ferme du Temple, et ce que disait Madame Ortega, dit de notre fenêtre on pouvait se voir. Elle était rue Cellier et la famille Stoffacher était à la ferme du Temple. Et là a commencé les réunions le vendredi soir, réunion d'études bibliques et de prières, et des clubs d'enfants chez les Stoffacher. Et c'est vrai que c'est en le 5 mars 66 qu'il y a eu ce premier culte, Et il y a eu un culte par mois. Le reste, c'était à Savigny. Pendant, je ne sais pas combien d'années, mais c'est vrai que Loret est venu en 67 aussi. Et c'est en 69 que l'Église, on pourrait dire, a commencé à se réunir dans un bâtiment loué après une salle municipale. Et c'est après qu'ils ont pu acquérir ce terrain ici. Et ils ont pu construire ce bâtiment. Et le premier culte ici a eu lieu en septembre 76. Bonjour, nous avons le monsieur le maire qui vient d'arriver. Soyez bienvenus. Et c'est en 76 qu'il y a eu le premier culte ici, en septembre. Et c'est vrai que, alors je vais passer rapidement, de 76 à maintenant, il y a eu du temps. Et il y a eu des moments, des bons moments, et puis il y a eu des mauvais moments. Il y a eu des bons moments, il y a eu des missionnaires qui sont venus apprendre le français. Il y a eu la famille Fisser, il y a eu la famille Pons, et il y a eu d'autres familles qui sont venues. Et là, ça a enrichi l'Église. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des mariages, il y a eu des personnes, des jeunes qui sont partis aussi à l'Institut biblique pour se former. Et combien c'est formidable de voir que Dieu a continué. C'est vrai qu'il y a eu des moments plus durs, des moments où il y a des personnes qui partent parce que soit elles décèdent, soit elles sont rétrogrades, soit ils sont mutés, ou soit, hélas, parce que oui, ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est vrai que quand il y a des personnes qui partent, ça fait mal. Et ça me fait penser à ce peuple juif. Ce peuple juif, il y a eu des bons moments pour eux et il y a eu des mauvais moments pour eux. Il y a eu des bons moments, c'est quand ils sont sortis du peuple, du pays d'Égypte. Là, il y a eu de la joie. C'était formidable, il y a eu des cris de joie et c'était la fête. Puis il y a eu des moments plus durs aussi pour ce peuple. Quand les Philistins sont venus l'attaquer, quand les Philistins ont pris des villes. Et ça me fait penser à cette histoire qui se trouve dans Samuel, dans 1 Samuel 7. Et je vous donne un peu le contexte. Les Philistins avaient tué 4000 juifs et le peuple était découragé et puis ils ont dit on va prendre l'arche avec nous et ils ont pris l'arche avec eux en croyant qu'ils allaient gagner. Dieu est avec nous, on va gagner. Et puis il y a eu 30 000 morts, pas évident n'est-ce pas, et des villes qui ont été prises et c'était la débâcle, à un tel point que les deux fils du souverain sacrificateur sont morts. Le souverain sacrificateur ayant entendu la nouvelle est mort aussi. La femme d'un des fils des sacrificateurs ayant entendu la nouvelle que son mari était mort, elle a accouché avec douleur en mourant et c'était marqué, voilà, plus de gloire, plus rien. C'était la catastrophe. Et c'était vraiment quelque chose de catastrophique et ça a duré pendant 20 ans. Et nous arrivons donc à 20 ans après, c'est 1 Samuel chapitre 7, verset 1. 1 Samuel 7, à partir du verset 1. Les gens de Kirjat Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Et il vous délivrera de la main des Philistins. et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et le servirent l'Éternel seul. Samuel dit à Assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau, la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de prier pour nous, l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël, l'Éternel exauça. Et pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour survivre les Philistins et ils les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem et l'appela du nom Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je peux dire que ça fait 22 ans que je suis ici, comme pasteur, et je peux dire que le Seigneur a secouru. Que Dieu choisit les choses faibles du monde. Et c'est vrai, il choisit les choses faibles du monde, je peux dire, je suis tout petit, et Dieu, malgré tout, a pu m'utiliser. Et je pense souvent à ce passage que je prends pour moi, c'est ce passage de Corinthiens, il dit « Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. » Et c'est vrai combien Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et comme il est dit aussi dans Corinthiens, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et je peux dire, oui, Dieu m'a secouru x fois. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour son soutien, pour sa grâce. Je voudrais aussi être reconnaissant pour tous les frères et toutes les sœurs que le Seigneur a mis dans cette église, pour leur amour, pour leur patience, pour leur travail, pour tout ce qu'ils ont fait. Et je veux rendre grâce à Dieu. Et je veux rendre grâce à Dieu pour son œuvre, parce que c'est lui qui le fait. Et nous pouvons dire ensemble, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il y dit Ebenezer. Ebenezer veut dire littéralement pierre du secours. Et quand on parle de pierre, une pierre de secours, je pense à une autre pierre. Vous savez laquelle que je veux dire? Hein? Le prophète Isaïe a prophétisé, il a dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion, à Jérusalem, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà. Celui qui prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Et c'est vrai combien c'est un repos quand nous reconnaissons que Christ est cette pierre angulaire. Et là où on peut mettre notre confiance en lui et combien c'est un repos. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, il a dit ceci: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Voilà le message de l'Évangile. Christ, la pierre angulaire. Christ, le fondement de l'Église. Il n'est pas simplement le fondement de l'Église, mais il est aussi le chef suprême de l'Église. Voilà ce que nous proclamons. Et combien il est formidable de savoir que Christ est cette pierre où on peut se reposer, où on peut le prendre comme fondement pour nos vies. Combien c'est important. Et je pense à un autre passage dans Pierre qui dit ceci: approchez-vous de Christ. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de Christ. Mettre cette confiance en lui, venir à lui, mettre notre confiance en lui. Seigneur, je viens à toi, je mets ma confiance en toi. Toi, tu es mon salut. Toi, tu es celui qui me pardonne, celui qui me donne la vie, la vraie vie. Ça, c'est formidable. Quand nous expérimentons cela, il est dit par la suite: et vous-même, en tant que pierre vivante. Ah, on parle de Jésus qui est la pierre angulaire, mais il parle des croyants comme des pierres vivantes qui va se construire sur cette pierre angulaire. Et chaque croyant est une pierre vivante. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est bien qu'on ait un bâtiment, mais c'est pas le bâtiment qui est l'Église, c'est les personnes qui sont dedans. C'est les pierres vivantes. Les pierres des personnes qui ont reçu Christ dans leur vie, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Ils sont devenus des pierres vivantes. Et les pierres vivantes, ensemble, nous pouvons nous édifier. C'est formidable. Et il nous parle que nous sommes édifiés. Il y a un autre passage dans Éphésiens qui dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà l'Église. Des pierres vivantes, des hommes et des femmes, de cultures différentes, de régimes complètement différents, ensemble, liés par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions former cette Église vivante. Et c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Nicolas, Dieu a donné des dons à chacun. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est Dieu qui bâtit son Église. C'est Christ qui en est le chef. C'est lui qui a permis qu'il y ait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. C'est lui qui a mis ensemble pour que nous puissions former cette Église. Et c'est lui qui permet qu'il y ait cet amour entre nous. Et qui s'édifie lui-même dans l'amour. Nous sommes édifiés, mais il y a aussi édifions-nous mutuellement. Nous avons besoin, nous, d'édifier mutuellement. C'est important, s'édifier mutuellement. Alors vous allez dire: oui, mais moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas ceci, moi je ne sais pas trop parler, je ne peux pas édifier. La suite du passage, très intéressant, dans Éphésiens, il dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification ou communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans une autre version, parole vivante, il dit: refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres, mais cherchez les mots qui aident et qui encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui l'entendent. Donc, chacun de nous a une bouche. Alors, c'est vrai qu'avec la même bouche, je peux dire toutes sortes de choses. Je peux dire des paroles qui vont faire mal, des paroles qui vont détruire. Et vous savez qu'avec des mots, on peut détruire une église. Et c'est grave. Les calomnies, des choses qui font mal, des paroles qui tuent, ça va pas. Mais par contre, par mes lèvres, je peux dire des paroles qui encouragent, qui font du bien, qui édifient. Et ça, c'est complètement autre chose. Et quand on est ces personnes, et ça devrait être notre prière, Seigneur, permet que mes paroles, quand je vais voir quelqu'un, je puisse édifier, que je puisse dire du bien, que je puisse encourager. Il y a deux sœurs cette semaine qui ont été chez Madame Brancato, qui ne pouvait pas être là ce matin. Elle a 89 ans aujourd'hui. Et ils ont pu chanter des cantiques avec elle, partager la parole. Et il y avait l'aide familiale qui était là. Et l'aide familiale, les entendant, s'est assise pour écouter. Elle a entendu l'évangile aussi. C'était formidable. Ils ont édifié. Vous voyez, tout le monde peut édifier avec sa bouche. Ou en écrivant une lettre, en donnant un coup de téléphone, ou alors maintenant avec les jeunes, avec une texto ou toutes sortes de choses. Hein. Je peux encourager et je peux édifier. Ça, c'est le rôle de chaque personne. Ce n'est pas le rôle que du pasteur, mais c'est le rôle de chacun. Ça s'appelle une église vivante. Si chacun fait cela, des pierres vivantes qui édifient et qui permet qu'il y ait d'autres pierres qui soient là et que cet édifice continue. Et c'est vrai que le Seigneur a permis que chaque individu soit des prêtres. Eh oui, chaque croyant sont des prêtres. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein, il dit ceci, que nous sommes des prêtres. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un groupe de prêtres saints. Chacun des croyants sont des prêtres. Dans l'Apocalypse, il est dit, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Et un autre passage lui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. Et quel rôle on a à faire? Afin d'offrir des sacrifices spirituel à Dieu. C'est le fruit de nos lèvres. Confesser son nom, louer son nom. Combien c'est agréable à Dieu. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je pense à un autre passage dans les psaumes aussi dit, celui qui œuvre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Oui, Dieu nous a racheté un grand prix. Et il y a ce beau passage aussi dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, prends ma vie, que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie. Et si je me donne à Dieu et je dis que Dieu soit glorifié, je me donne aussi aux frères et aux sœurs. Et j'aime bien ce passage, vous savez, on dit souvent, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'aime bien aussi ce passage de 1 Jean 3,16 qui dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Combien il est important de se soutenir mutuellement, s'encourager, se rendre visite, s'aimer les uns les autres. Voilà tout un programme de l'Église. Et si je veux que l'Église continue, et j'en suis responsable, chacun, c'est de dire, moi je veux avoir des paroles qui édifient, je veux aimer, je veux me donner pour les frères et pour les sœurs. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui parce que on fête ces 50 ans, mais il y a d'autres villes où il n'y a pas de témoignage, où il n'y a pas de chandelier qui brille. Et n'oublions pas l'ordre du Seigneur qui nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a cette promesse. Allez-y. Il y a d'autres endroits où ils ont besoin d'entendre l'Évangile, d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, pour nous donner la paix, pour que nous soyons rachetés et qu'on ait cette assurance dans nos cœurs que nous avons la vie éternelle parce que nous avons été pardonnés. Alors, nous fêtons les 50 ans. Je ne sais pas si je serai là pour les 75 ans. Je serai peut-être mort. Je serai là-haut. Ou les 100 ans, là, ça assure. Sauf si le Seigneur revient d'ici là. Mais le souhait de mon cœur, c'est que l'Église continue à grandir, à être ferme dans la foi, à être ferme dans le Seigneur, et qu'il ait bien beaucoup, beaucoup d'églises sœurs. Vous savez ce que je veux dire? Et s'aimer, pour que d'autres endroits, dans d'autres villes, ils puissent avoir des églises où le nom du Seigneur peut être loué et glorifié. Nous allons prier.